Salut à tous, bienvenue, c'est l'heure de Si les 90s m'étaient comptés. C'est comme d'habitude Seb au micro pour cette heure marquée du saut des années 90. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le mois de septembre 1999. On va passer en revue tout ce qui se passait de réjouissant dans la sphère rock au sens large, qu'il s'agisse de musique, de ciné ou de magazine. Un joli sommaire donc, accompagné aussi d'une belle playlist. On va s'envoyer d'ailleurs tout de suite de la musique avec les Clermontois de Sleazy Earth, du hardcore mélodique à la pure sauce 90s, un petit peu dans la même vibe que les 7-8 ou les Burning Heads. Et juste derrière, direction plein nord avec les Suédois de Fireside et Sweet Bed. Du hardcore là aussi, mais vachement plus émo, vous allez voir.
Like
À l'instant, dans ce 20e numéro de Silly 90s Mettez-Compté, c'était Fireside du post-hardcore Grand Luxe tiré de leur album Uomini d'Honoré, qui était dans les bacs en ce mois de septembre 1999 qui nous intéresse aujourd'hui. Un mois de septembre qu'on va commencer, comme d'habitude, à aborder avec les news d'époque. Et on commence la revue de ces news d'époque avec le 7 septembre 1999, un tremblement de terre à Athènes, un 5,9 qui cause la mort de 143 personnes, en blesse 500 autres et laisse plus de 50 000 sans-abri. Le 9 septembre, les MTV Awards sacrent comme grands gagnants Lauryn Hill et Will Smith. 9 septembre également, ça bougeait bien pour les fans de jeux vidéo puisque c'était la date de la sortie de la Dreamcast de Sega, qui restera comme la dernière console commercialisée par le géant japonais du jeu vidéo. Le 13 septembre 1999, attentat à la bombe contre un immeuble à Moscou, attentat attribué aux indépendantistes tchétchènes. Le 21 septembre, terrible tremblement de terre à Taïwan, ce coup-ci avec plus de 2400 morts. Et le 23 septembre, la NASA qui déclare avoir perdu le contrôle de sa sonde martienne Mars Climate Explorer. C'était pas la première et depuis, il y en a eu aussi pas mal. Pendant ce temps-là, du côté de la ZIC, les Américaines de Powerman 5000 s'apprêtaient à sortir leur troisième album. Il s'appelait Tonight the Star Revolt, une belle prod dans la veine des disques de Rob Zombie. Le chanteur de Powerman 5000 est d'ailleurs le petit frère du grand Rob, cela explique peut-être cela. Et pour ne rien gâcher à l'affaire, le Quintet de Boston avait eu le bon goût de confier les manettes à une des rares productrices du milieu rock américain, la tricotée Sylvia Massi. Hang on to tomorrow, because tonight the stars break fall. Do you believe? And will you learn to scream like birds?
Yeah!
On est resté au State avec la petite doublette qu'on vient de s'écouter. Comme je vous ai dit précédemment, les Powerman 5000. Et puis juste derrière, le deuxième titre, King of the Road, signé Fu Manchu. Du stoner franc du collier, ça sent bon le Marshall chauffé à blanc. Et ça ne se prend pas trop la tête non plus en termes de plan psychédélique. C'est du vrai rock'n'roll qui plus est. Et c'est propulsé par Brant Bjork, le batteur de Kyuss. Allez, on se bouge. C'est l'heure des brèves musicales de septembre 99, juste après ce petit jingle. Septembre 99, c'est un mois assez important pour les Queens of the Stone Age qui quittaient Roadrunner qui avait sorti le premier album pour signer sur Major. La Major en question, c'était Interscope. Queens of the Stone Age qui avait défrayé la chronique quelques semaines plus tôt puisque à l'occasion d'un festival en Angleterre, les Queens s'étaient bastonnés avec les Terror Vision. Du côté de The Cure, ça bossait sévère puisque le nouvel album était en vue pour le début 2000 et en septembre 99, eh bien, ça enregistrait ce fameux album qui était destiné à marquer les 20 ans du groupe anglais. Septembre 99 toujours, triste nouvelle pour les fans de The Jesus Lizard puisque le groupe de Duane Dennison et David Dio venait d'annoncer son split. Autre séparation notable, celle de Dub War, le groupe de métal de Benji Weeby. Du côté de Therapy, mes petits chouchous, eux, ils venaient de signer sur le label américain Arc 21, après avoir été virés de AM. Courtney Love continuait de diversifier son activité, puisqu'elle jouait le rôle de la femme de William Burroughs dans Beat, un film qui était en plein tournage en septembre 1999. Relativement plus à l'écart, les Stone Temple Pilots, eux, terminaient le mixage de leur quatrième album, qui était très originellement intitulé Numéro 4. Les ex Faith No More s'activaient du côté business, puisque en septembre 1999, Mike Patton venait de créer IPCAC, tandis que Billy Gould, le bassiste de Faith No More, lui lançait Cool Arrow Records. Enfin, pour terminer, d'autres chouchous, les Foo Fighters qui venaient d'entrer en studio avec Adam Kasper, le producteur attitré de Soundgarden, pour enregistrer leur troisième album à sortir sur une nouvelle maison de disques puisque les Foo Fighters venaient également de signer chez RCA. Oma America qu'on vient de s'écouter tout de suite, c'était Amen, le groupe phénomène de la rentrée 1999. Amen, découvert et signé par Ross Robinson sur son label I Am Recordings. Amen, groupe mené de main de bête par le déjanté Quasi Chaos. Après les brèves, on reste dans la page musicale de l'émission avec un coup d'œil aux sorties de ce mois de septembre 99. Il y avait pas mal de trucs bien sympas. On va commencer d'ailleurs par une sortie française avec le Haïku de Dionysos. Haïku qui a permis à Dionysos de se faire connaître auprès du grand public et qui lui a permis d'embrayer par la suite sur une bien bien belle carrière. Iggy Pop, lui, sortait Avenue B, un disque un peu plus bluesy, on va dire. Énorme sortie pour les fans de Nine Inch Nails avec un double album qui a marqué son temps, qui s'appelait The Fragile. Pour les fans de hip-hop, Method Man, lui, proposait Blackout, un album plutôt sympathique. Pour les fans de hardcore, j'ai également quelque chose en magasin, c'était The Dillinger Escape Plan, accompagné de Mike Patton, qui sortait un drôle de EP particulièrement chaotique, ça s'appelait Calculating Infinity. Toujours au rayon métal, les Vikings de Amon Amarth sortaient The Avenger. Rayon pop anglaise, un truc bien sympathique aussi, le premier album éponyme de Supergrass, album qui a bien marqué son temps. Et puis, dans la sphère rock américaine, j'ai tout un tas de trucs bien sympathiques. Le premier album solo de Chris Cornell, Euphoria Morning. Creed, qui sortait son deuxième album, Human Clay. Les fans de rock sudiste n'étaient pas non plus en reste avec ZZ Top qui proposait un triple X plutôt pas mal. Et puis du côté des fans de post-hardcore, post-rock, il y avait également American Football qui a marqué son temps avec cet album éponyme de septembre 99 intitulé donc American Football. Dernière sortie, moi, qui m'avait bien bien plu à l'époque, Days of the New qui sortait leur album Two. Days of the New, qu'on va d'ailleurs tout de suite s'écouter avec Not the Same.
Dis donc, qu'est-ce que tu penses de Trudy? Elle a pas de mec, tu peux... Ah, tu veux rester t'éclater?
Trudy, c'est celle qui a plein de trous sur la figure?
Non, elle, c'est Jody. C'est ma femme.
I'm not the
you are. Hey,
clore cette grosse page musicale, on va jeter un coup d'œil sur les présentoirs des librairies, avec un aperçu donc de cette presse musicale française qui se portait encore assez bien en septembre 99. Pour le métal d'abord, Art Force numéro 49 en kiosque, Bruce Dickinson et Dave Mustaine en couverture, sous-titré La Revanche du métal, Iron Maiden et Megadeth à Bercy complet. Chez Hard Envy, c'était Danny Fields et The Cradle of Filth qui occupaient la une. Côté rock, Roxanne ouvrait sur Dolly, dont le deuxième album venait de sortir. Il s'intitulait Un jour de rêve, tandis que Rage sortait son ultime numéro. Et oui, c'était bien triste, ce fameux numéro 45 avec Chris Cornell en couverture. C'était le dernier de l'histoire, à l'occasion donc de la sortie du premier album solo de Chris Cornell, Euphoria Morning. Voilà pour la presse, tout de suite retour de la musique dans ce 20e épisode de Si les 90s m'étaient comptés. Une doublette complètement azimutée et qui n'a donc rien à voir. Les Frenchies de Bubblies avec Death, puis derrière les New Yorkais de Typo Négative du regretté Peter Steele et un morceau qui fait quand même 7 minutes. Et Pyretta Blaze. I'll give you my next call. Yeah. Look, he said, you've got spider traps all along this wall. It's fascinating. He was outside my door, peering at the stucco wall. I said, come on in. He said, no, wait. And he got a twig and found some ants. And he said, Bukowski, I'm going to make this ant run the gauntlet. The phone rang, and I answered the phone. And all I was talking and listening, he said, Bukowski, he got away from the first spider. Now the second one is out and he's got the ant by the rear leg. Listen, Linda, I said, I've got a visitor and also my toilet stopped and the shit is coming up through the tub.
Truc 1. Vivez cette journée comme si c'était la dernière. Je vais pas mourir.
I'm gonna go.
Ça fait quelques émissions qu'on n'a pas parlé de ciné, et en préparant celle-ci, j'ai jeté un coup d'œil au box-office du mois de septembre 1999, et je me suis rendu compte que parmi les plus gros succès de cette rentrée figurait en bonne place le projet Blair Witch, un film qui m'avait bien secoué à l'époque. Du coup, j'ai choisi de vous rafraîchir un petit peu la mémoire avec ce dossier. Le projet Blair Witch est un film d'épouvante qui raconte l'histoire de trois étudiants en cinéma qui tournent un documentaire sur la légende d'une sorcière, witch en anglais, sorcière qui vivait dans la forêt de Blair, d'où le projet Blair Witch. Ces trois étudiants disparaissent mystérieusement après s'être égarés dans la forêt et la bande vidéo qu'ils ont enregistrée est retrouvée une année plus tard sur les lieux mêmes de leur disparition par la police. Et c'est cette vidéo qu'on nous présente dans le film tel quel. Vu comme ça, rien de bien révolutionnaire donc qui puisse expliquer le carton du film. En fait, c'est plus dans la stratégie marketing qu'il faut chercher une réponse. La production en avait eu en effet l'idée de génie de lancer le buzz sur le web en diffusant des rumeurs qui faisaient passer le film comme authentique et laissant croire à qui voulait bien l'entendre que les trois étudiants avaient bel et bien disparu. L'autre point fort du projet Blair Witch, c'est son style unique, très proche du documentaire puisqu'il a été entièrement filmé caméra à l'époque. Il faut dire que les réalisateurs avaient laissé aux trois acteurs du film toute latitude pour tourner eux-mêmes le projet Blair Witch à l'occasion d'une virée de 8 jours en forêt où ils furent littéralement livrés à eux-mêmes. Deux caméras leur furent fournies ainsi qu'un pointeur GPS. La première caméra servait pour le tournage tandis que la deuxième servait à réaliser par la suite un making-of. Le script lui leur laissait presque de totale liberté et au final, la petite balade en forêt se solda par 18 heures de rush qui, après un an de montage, donnèrent naissance à ce fameux film qui nous fila tellement les chocottes. Pourtant, tout le paradoxe de ce film, c'est justement qu'on ne voit rien, pas une goutte de sang, pas un cadavre démembré, absolument rien. Tout est basé sur l'ambiance, terriblement oppressante, et sur le fait que l'horreur est suggérée plutôt qu'affichée. Du coup, le trouillomètre fonctionne à plein régime pour peu qu'on ait de l'imagination, et en général, les amateurs de ce genre de film, de l'imagination, justement, ils n'en manquent pas. Le projet Blair Witch, c'est un film véritablement révolutionnaire qui a propulsé la technique du found footage dans le film d'épouvante. Autrement dit, c'est le montage d'images amateurs, une technique qui a été reprise largement depuis, notamment par des sagas comme Rec ou Paranormal Activity. Dernier détail, Tourné avec un budget extra light de 25 000 $, le projet Blair Witch en a finalement rapporté 250 millions. C'est dire l'énorme succès qu'il a eu, y compris en France, puisque j'ai été vérifié et ce sont quand même plus de 800 000 personnes qui se sont déplacées pour aller voir ce film, ce qui à mon avis est un record dans le genre épouvante, horrifique.
Yeah.
Gros carton de la rentrée 1999, le Title of Records, deuxième album de Filter, dont est tiré ce chouette It's Gonna Kill Me qu'on vient de s'écouter. Juste avant, on était en plein dans une page ciné qu'on va poursuivre. On a parlé du projet Blair Witch, ce n'est pas le seul film sympathique à être sorti en ce mois de septembre 1999, puisque c'est aussi le mois de sortie de South Park, le film dérivé du célèbre dessin animé créé par Trey Parker et Matt Stone. Alors le film South Park, à l'image de ce qui se faisait déjà à la télévision, il est complètement déjanté, mais véritablement génial. Vous verrez si vous avez l'occasion de le voir. Il est plein de parodies de Disney, et puis les personnages ne sont pas tous imaginaires. On y retrouve par exemple Bill Gates qui fournit à l'armée des systèmes Windows 98 complètement à la rue. On a Saddam Hussein qui entretient une relation avec Satan, relation... sexuelle en l'occurrence. On y retrouve aussi Barbara Streisand, Gandhi, Bill Clinton et même Winona Ryder qui est également de la partie. South Park, le film, s'est vu attribuer lors de sa sortie en septembre 1999 la mention Restricted aux États-Unis, mention qui interdit le film aux moins de 17 ans non accompagnés, en raison, je cite, d'une vulgarité verbale prédominante, de certains dialogues à connotation sexuelle très crue et de la violence de certaines scènes. Il faut dire que les scénaristes n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. 399 mots considérés comme obscènes aux États-Unis, 146 utilisations du mot fuck, 128 gestes obscènes et 221 actes de violence. C'est pour l'anecdote ce qui a permis à South Park, le film, d'entrer en 2000 dans le livre Guinness des records comme le film le plus obscène jamais réalisé. Bref, si vous voulez vous envoyer une bonne tranche de second, voire de troisième degré d'humour, ce film d'animation bien trash sera un choix pour les connaisseurs, un choix de connaisseurs, comme le groupe qu'on va s'écouter tout de suite. Voici les Misfits et Scream, extrait de l'album Famous Monster, deuxième disque à sortir après le retour des Misfits de 1995, un chouette album produit notamment par l'excellent Daniel Rey. Voilà les amis, on arrive au terme de ce 20e épisode de Si les Nantis m'étaient comptés. On a fait aujourd'hui escale en septembre 99. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble. On se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines, même heure, même endroit. Bis à tous, le générique du jour aujourd'hui, un groupe français, les Tux, et restez debout. Bye bye.
C'est dur de rester debout.